Je voudrais prendre avec vous une parabole que j'aime bien, que j'ai toujours trouvée simple et compliquée à la fois. Et je vous proposerai qu'on la lise ensemble. C'est Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 13. Je vais la lire dans la Bible Semeur. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux, comme de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leur lampe sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leur lampe des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent. « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt, vous en achetez chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Alors, dans Matthieu, au moment où Jésus parle, il est entré dans Jérusalem. Cette parabole, elle se situe au milieu de trois paraboles. La parabole qui est juste au-dessus, la fin du chapitre 24, des versets 45 à 51, si vous avez vos Bibles, c'est un serviteur qui doit veiller sur le personnel. Au verset 46, on a comme un refrain dans ces paraboles. Il est dit au verset 46, « Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. » On pourrait dire que ce verset 46, c'est celui qui s'applique à ces trois paraboles. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses. Là, il s'agit de faire des choses conformes à ce pourquoi on est là. Et là, il y a un serviteur qui doit veiller sur le personnel du maître. Et bien, s'il est trouvé veillant, ben, il est heureux. Et la deuxième parabole, c'est la parabole des 10 vierges, comme je viens de lire. La troisième qui suit, c'est à partir du verset 14 du chapitre 25. C'est de l'argent à faire fructifier. Il faut faire fructifier les capacités qu'il nous a données. Si on prend le début du chapitre 24, au verset 3, il est dit que Jésus il est assis sur le mont des Oliviers, il commence de parler. Moi j'aurais bien aimé être assis avec lui, en train de l'écouter sur le mont des Oliviers, je ne sais pas vous, mais ça me manque de temps en temps. Cette parabole aussi, pour terminer un peu le contexte, elle se situe dans deux chapitres, les chapitres 24 et 25. C'est ce qu'on appelle le cinquième discours de Jésus. Dans Matthieu, il y a 5 discours. Vraiment fondateurs, qui sont bien disséminés dans l'Évangile. Et c'est le cinquième et dernier. C'est le discours sur la suite ou la fin des temps. Alors, pour comprendre cette parabole, je crois qu'il nous faut juste quelques clés. C'est une parabole qui, je vous ai dit, à la fois difficile et simple et difficile. Un des risques, je pense, si on veut tout spiritualiser dans cette parabole et dans les moindres détails, je pense avant tout, c'est une histoire. Comme dans toutes les bonnes histoires, il faut rentrer dans l'histoire et comprendre les grands axes de l'histoire. Il y a 3 éléments principaux dans cette parabole. Si vous faites attention, il y a des vierges, il y a un époux et il y a des lampes avec de l'huile. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne ce que symbolise ça avant d'aller plus loin. Je crois qu'on peut simplement dire que des vierges représentent les chrétiens. Dans cette parabole, toutes les vierges ont reçu un carton d'invitation pour le mariage. Vous avez déjà été invité à un mariage. on reçoit un faire-part, et dedans on regarde s'il y a un petit carton où on peut inviter un supplémentaire, on l'invite pour le repas. On l'a ou on l'a pas. Et là, elles ont toutes reçu ce petit carton supplémentaire avec le faire-part. Là. Vous êtes invité pour le repas qui aura lieu dans telle salle, etc. Ça fait un moment qu'elles ont reçu le carton. Et les 10 sont invités au repas, au banquet. Donc, ces 10 vierges sont comme nous tous, qui ici avons été invités par Dieu au banquet, qu'on appelle banquet des noces de l'agneau, hein, ce banquet qui se tiendra au ciel un jour. On a reçu le petit carton, parce qu'on s'est mis devant le Seigneur, parce qu'on a confessé de notre bouche qu'on croyait en lui et qu'on croyait en sa mort sur la croix. Mais on voit que la moitié se sont préparées pour ce banquet, qu'elles avaient de l'huile nécessaire pour faire brûler leur lampe, et l'autre moitié n'est pas prête, pas d'huile, ou plus d'huile. Les pourcentages sont importants, c'est moitié-moitié. Si on prend la parabole de l'argent à faire fructifier, ou parabole des talents, souvent on l'appelle comme ça, c'est 2/3, 1/3. C'est des grosses proportions, hein. C'est pas 3% qui n'ont pas d'huile. C'est quand même une certaine importance, c'est une grosse proportion qui n'est pas prête. Le deuxième élément, c'est, après les vierges, c'est l'époux. L'époux, on va aller vite, hein, c'est Jésus. Je crois qu'il ne faut pas faire compliqué, parce que si on reprend tout ce chapitre 24-25, c'est Jésus qui doit revenir, hein, il parle de ça. C'est Jésus à son retour. Et le but des vierges, c'est simple, c'est aller à la rencontre de l'époux, aller à la rencontre de Jésus. Comme un jour, nous irons à la rencontre de Jésus quand il viendra. Le retard de l'époux est important. Comme Jésus est en retard, et ça fait 2000 ans qu'on l'attend, on s'est un peu assoupi. Ça explique, hein. J'ai avec le sommeil, c'est pas une honte. Parce que les 10 vierges dorment. C'est pas ça qui leur est reproché. C'est pas qu'elles se sont endormies. Ça me rassure quelque part. Parce qu'autrement, on a tous des moments où on est un peu plus ou moins en forme. Hein. On a aussi. C'est un bon rappel pour nous dire qu'on est encore sur Terre. On a le droit de dormir, on a le droit de prendre des temps de repos. C'est pas ça le souci. C'est pas ça qui leur est reproché. Elles avaient le droit de dormir. Troisième élément, les lampes ou l'huile. Les lampes, il faut aussi bien comprendre, c'est pas la petite lampe qu'on met sous le boisseau dont Jésus parle. Là, il s'agit, le terme n'est pas employé souvent dans le Nouveau Testament, c'est la lampe, les lampes qu'avait la foule qui est venue avec Judas au jardin de Gethsémané chercher Jésus. Donc, c'était pas la petite lampe en terre cuite, c'était la torche. C'est les torches qu'on va retrouver dans l'Apocalypse, c'est le même mot. Les torches qui flambent devant le trône de l'agneau de Dieu, Apocalypse 5. C'est ces mêmes lampes. Donc c'est ces torches imbibées imbibées d'huile, qui sont avec un chiffon imbibé d'huile, qui brûlent à peu près 15 minutes. Il fallait toujours remettre de l'huile pour que ça brûle. Et pour ça, il faut avoir une réserve. Parce qu'autrement, au bout de 15 minutes, vous n'avez plus de feu. Les torches, elles n'ont qu'une seule fonction, c'est d'éclairer. Elles ont dû brûler à un moment pendant la nuit, ces torches, puisqu'elles en avaient au départ. Hein. Parce que les folles disent à celles qui étaient avisées, donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Et l'huile, on l'a souvent vue d'une façon très spirituelle comme étant le Saint-Esprit, pourquoi pas. Il y en a qui l'ont vu comme étant nos bonnes actions. Moi, je ne pense pas. L'huile, je crois que c'est avant tout quelque chose qui permet aux lampes de briller. Il faut plutôt réfléchir peut-être un peu plus large. Qu'est-ce qui, dans nos vies, nous permet de briller? Le Saint-Esprit en fait partie, mais peut-être pas que ça. Alors, pour bien comprendre comment marche cette parabole, je crois qu'il faut... Il faut suivre un peu l'intrigue, comme une toute bonne histoire, il y a une intrigue. Et ces jeunes filles, elles attendent l'arrivée de l'époux, elles sont peut-être dans la maison de la mariée, qu'elles aident à se préparer. C'est un peu comme ça que ça se passait dans ce temps-là. Le marié n'est pas encore arrivé, il vient normalement avec ses amis à la rencontre de la mariée dans sa maison et ils partiront ensemble au repas de noces. En attendant l'arrivée du marié, les vierges se sont endormies. Et quand le mari arrive, eh ben, il y a seuls les vierges qui ont assez d'huile qui peuvent rallumer leur lampe. La responsabilité de ces jeunes filles, elles en avaient qu'une. Éclairer la rue pour permettre d'aller de la maison où elles attendaient jusqu'au repas de noces. C'était leur seul boulot, au milieu de la nuit, avoir des lampes pour éclairer la rue. Alors on a souvent résumé cette parabole à une question de timing, de temps. On dit souvent que l'époux est en retard et on s'endort. Mais en fait, il est à la fois en retard et en avance. Parce que quand il vient, on est pris par surprise, parce qu'il vient trop tôt. En même temps, on s'endort parce qu'il vient trop tard. C'est étonnant dans cette parabole. Et je crois que la question qu'on doit se poser, c'est pas quand, tout le temps quand est-ce que Jésus revient. Alors on échafaude des dates, des pronostics, il va venir à tel moment, il va... C'est comme un peu quand on est enfant et qu'on doit attendre pour le nouvel an, la nouvelle année, et puis qu'on a envie de s'endormir et puis qu'on ne contient pas le coup parce qu'on attend les 12 coups de minuit. Le verset 13 de cette parabole, il dit « Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Et on a souvent compris comme ça, se veiller. Allez, vous allez attendre et vous allez veiller. Ça résume peut-être pas parfaitement bien cette parabole. Je dirais qu'il faut veiller pour ne pas être pris par surprise. Mais peut-être c'est un sens un peu plus large que juste attendre. C'est veiller dans le sens d'être prêt. C'est veiller dans le sens d'être prêt sur sa conduite. On ne regarde pas forcément le moment de son retour, mais on regarde peut-être où nous en sommes maintenant. Et peut-être la bonne question dans cette parabole, c'est de se poser la question, comment j'attends Jésus maintenant ? Comment je me prépare ? Comment je vais faire pour que je sois prêt pour la noce et que j'ai mes réserves d'huile ? Parce que le vrai problème, il est là. Il n'était pas de savoir à quelle heure il allait arriver, mais comment on allait faire pour avoir assez d'huile pour être prêt pour tenir. Et l'huile, c'est le carburant pour la lampe. C'est la source d'eau vive, tous ces éléments qu'on retrouve dans la parole. Et l'huile, on va la trouver dans la proximité avec Jésus. On va la trouver dans la prière, dans les temps de louange, comme on vient de le passer, dans les temps de prière, les demandes, les réponses de Dieu. C'est les moments où on va mettre en réserve de l'huile. Ça va être dans la lecture de sa parole. C'est peut-être une des préparations, je crois, les plus solides qu'on puisse avoir. C'est prendre du temps pour faire des provisions de la parole. Il a pris le temps de nous laisser un message par écrit. On l'a dans cette parole. On l'a avec nous, on l'ouvre, on la lit. Celle qui nous parle de Dieu, celle qui nous prépare. C'est parce que, je crois, on la médite tous les jours. La Bible dit même jour et nuit. Qu'on peut retrouver de l'énergie en lui. Cette parole qui soutient notre prière, qui l'enrichit, etc., qui forme notre pensée. Et c'est cette parole, parce qu'elle est semée en nous au quotidien, qui va nous changer, nous transformer et faire en nous des provisions d'huile. Je crois que c'est vraiment fondamental, la lecture de la parole dans l'Église, lecture de la parole dans nos familles, les cultes de famille, lecture de la parole en couple, lecture de la parole personnelle. C'est toute cette réserve qui va nous permettre d'établir les bonnes réserves d'huile. Quand je dis parle de lecture de la parole, je ne parle pas de la lecture du feuillet de la bonne semence ou du top chrétien. C'est bien, il n'y a pas de souci avec, mais ça, si je dirais, c'est l'apéritif. Il y a besoin d'aller un peu plus loin. Sinon, on aura des réserves d'huile qui ne vont pas tenir longtemps. Un des guides de lecture en un an, en deux ans, toute la Bible, ou trois ans, ou six ans, peu importe, on n'est pas là pour faire des records, mais on est là pour lire. Des formations en institut, par correspondance, il y a des groupes de maisons, enfin, il y a multiples choses, mais Il nous a dit dans cette parabole qu'on peut acheter de cette huile. Alors vous allez me dire, la parabole elle est gratuite. Oui, elle est gratuite, mais on peut l'acheter quand même parce qu'elle nous coûte quelque chose. Cette préparation, elle va nous coûter. Elle va nous coûter du temps, de l'énergie, de la volonté. Ça rejoint cette parole d'Ésaïe 55, verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. » Vous qui n'avez pas d'argent. « Venez acheter sans argent. » Ah, moi j'aime beaucoup cette parole d'Ésaïe. « Oui, sans paiement du vin et du lait. » C'est vraiment ça. « Acheter sans argent, parce que vous allez acheter autrement. » Cette parole qui a du coût, qui coûte quelque chose, qui va vous coûter à vous et qui a coûté à quelqu'un, qui a coûté à Jésus surtout. Et si on peut avoir accès tellement facilement maintenant à Dieu, c'est parce que Jésus lui-même a donné sa vie pour qu'on ait accès. Elle a un prix, cette parole. Elle a un coût. Alors faites vos provisions, faisons nos provisions comme la marmotte qui se gave pour passer l'hiver, ou l'ours pour faire des provisions, pour faire un peu de graisse. Mais je dirais, faire des réserves d'huile ne sert à rien si on n'utilise pas l'huile pour éclairer la rue. Ça, c'est l'autre partie. Éclairer, c'est donner de la lumière, et c'est plus simplement causer sur le marié, causer du marié, causer avec le marié, mais c'est marcher avec lui dans la rue, jusqu'au banquet, jusqu'au lieu du banquet. Vous savez, il y en a des gens, ils gardent l'huile pour eux. Il y en a qui ne veulent pas l'utiliser parce qu'ils préfèrent l'obscurité. Il y en a qui gardent l'huile, qui se rappellent la vieille huile de leur enfance dans l'école du dimanche, comme c'était bien. Ils nous parlent de leur enfance et « Ah, ça m'a fait du bien, mais ça me rappelle mon enfance. » C'est dommage, quoi. Ils ont mis l'huile au grenier, quelque part, comme un petit objet. Il y en a qui ont de l'huile haut de gamme, qui de haut niveau, de la haute théologie. Moi, j'ai rien contre la théologie, je l'aime bien, la théologie, mais à un moment donné, si on la met sur le buffet en disant « ça, c'est de l'huile pour Ferrari », et qu'on ne l'utilise pas dans notre voiture au quotidien pour aller au boulot, elle ne nous sert pas à grand-chose. Etc. Il y a multiples huiles, hein, je ne parle pas des huiles frelatées et tout ça. Nos provisions d'huile, elles doivent enflammer nos torches pour éclairer la rue. Par une vie qui est en conformité. On n'a pas peur de mettre la lumière parce que ce qu'on est et ce qu'on dit, c'est la même chose. On n'a pas peur de se montrer. Il ne nous demande pas des grandes choses, c'est la magie, ça, dans cette parabole. Il ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires, d'être un Billy Graham. Il nous dit, ben, toi, tu es la Vierge qui prépare, c'est ton job, tu vas préparer la ruelle pour l'éclairer, pour faire passer le marié jusqu'aux salles du banquet. Et tu fais ton job, t'es clair. Là où on est, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est au quotidien, je crois vraiment qu'on peut faire la différence en éclairant. Tu vois, à Montbéliard, on est en train de préparer le projet Bouge ta ville. Avec la mairie, on a vu les journalistes cette semaine pour leur parler de ce projet. C'est un projet où on va faire des travaux de nettoyage dans la ville, où on va nettoyer les décharges publiques, enfin les décharges sauvages, on va élargir des sentiers de randonnée, etc. On va être plus de 300 personnes à travailler là-dedans, et c'est toutes les églises qui se réunissent pour ça. Ça marque les gens, parce que quelque part, on éclaire la ville en disant, voilà, en tant que chrétien, on veut vous aider, vous servir. On va faire aussi des animations de soir pour les enfants, pour faire un barbecue géant, des concerts, etc., tout ça gratuit. Pour dire une fois, ben les chrétiens sortent de leur mur, ils vont dans la ville, ils vont servir leurs concitoyens, essayer de faire du bien autour d'eux. Moi j'appelle ça allumer nos flambeaux, de faire avec ce qu'on peut, ce qu'on est. Juste être présent pour que d'autres personnes puissent voir qu'il existe quelque chose. Et je termine ce texte avec trois surprises, parce que dans les paraboles il y a souvent des surprises. Ça j'aime les paraboles de Jésus pour ça. Elles sont étonnantes. Trois bizarreries dans cette parabole. Les surprises, c'est vraiment un truc qui n'est pas cohérent, qui est quasi impossible, et que Jésus met là pour que ça fasse tilt. Moi, la surprise dans l'histoire, c'est que la moitié n'est pas pensée à prendre de réserve d'huile. Vous avez une fonction, éclairer un cortège. Vous êtes invité depuis un moment, vous avez reçu votre carton d'invitation, c'est votre job. Moi, je crois que ça paraît aberrant. Imaginez, vous êtes demoiselle d'honneur à un mariage. Vous devez porter une robe de couleur bleue et vous arrivez le jour du mariage, vous avez oublié la robe. Ou bien vous devez conduire la voiture des mariés, vous avez oublié de mettre de l'essence dans la voiture des mariés. Moi, je crois que c'est... On la bichonne la voiture du marié, on la lavait, personne n'oserait venir avec la voiture toute sale et sans essence. Il y a comme ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de bizarre. C'est comme si le DJ venait pour la cérémonie et avait oublié les disques. C'est pas cohérent. On n'oublie pas l'huile alors que c'est notre fonction. Ça, je crois que c'est vraiment mis volontairement dans le texte pour nous titiller. C'est qui oserait faire un truc pareil? On est invité, on a juste une fonction à faire, on ne l'assume pas. Est-il possible d'avoir une lampe qui semble bonne, la torche était là, et pas d'huile pour l'allumer? Et je crois qu'on peut vivre dans l'Église et dans la société chrétienne, entre guillemets, et pourtant être un étranger pour Dieu. On est un peu choqué par cette porte fermée, et pas choqué parce qu'on vient à la fête sans huile. Moi, je crois que Dieu est choqué par l'attitude de ceux qui osent venir au banquet sans prendre de réserve d'huile. Il serait quand même un peu gonflé. Deuxième surprise, c'est de découvrir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas emprunter. Parce que quelque part, on peut toujours se débrouiller au dernier moment qu'on va à un mariage. Ce qu'on emprunte, c'est ce qui ne nous tient pas vraiment à cœur. Est-ce que vous avez déjà vu? Enfin, j'ai vu une fois. Donc ça peut arriver, mais ça ne devait pas lui tenir à cœur. Est-ce que vous avez déjà vu une mariée qui emprunte sa robe pour le jour du mariage? C'est rare. En général, elle l'a choisie, et ça, c'est quelque chose d'important. On a besoin de posséder certaines choses pour nous seulement. On ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre pour les obtenir. On ne peut pas prêter sa vie. Quelqu'un est en train de mourir à côté de nous, on ne peut rien faire, on ne peut pas donner notre vie pour qu'il puisse respirer à notre place. L'huile qui est mise à notre disposition, c'est une huile offerte qui va nous façonner, qui va nous transformer. Elle était offerte au prix de la vie de Christ. Personne ne pourra nous en prêter. Ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est juste une réalité. On a une réserve qui est juste suffisante pour nous. On ne prête pas une préparation spirituelle. Et ce temps d'attente, c'est une sorte de préparation spirituelle où on fait nos provisions. On ne peut pas le prêter. La marmotte qui s'est gavée pour l'hiver, elle ne va pas pouvoir prêter la graisse qu'elle a mis de côté. On ne prête pas, par exemple, l'air qu'on respire pour le moment. Moi, je ne peux pas vous le prêter. J'en respire pour ma part. Mais si vous ne respirez pas, je ne peux rien pour vous. Et nous sommes choqués souvent parce qu'elle ne partage pas. Et on ferait mieux, je crois, d'être choqué, parce qu'on fait si peu de cas du cadeau qu'il nous a offert. Et la troisième et dernière surprise, il y a des moments où c'est trop tard. Trop tard, c'est un terrible verdict, je trouve. Et on déteste ça, enfin moi le premier, je déteste. Ici encore, c'est impossible que ça arrive dans la réalité. Parce que quand vous êtes à un mariage, vous avez des gens qui arrivent en retard. Vous les prenez, quoi. Vous leur dites pas, il est trop tard. Un mariage, on veut que ça se passe bien, quoi. J'ai marié mes deux garçons l'année dernière. Il y a quelqu'un qui n'était pas prévu au mariage qui est arrivé. On s'est plié en 4 ou en 8 ou en 10 pour trouver une place. Pas prévu, mais c'était pas le moment de dire « Ah non, t'es dehors, t'as pas de carton. Ouais. » On a trouvé une place, on a dit « Oh là, on est désolé, on a trouvé ce qu'il fallait pour... » On fait tout dans un mariage pour permettre aux gens de rentrer. Et là, non. Là, on dit c'est trop tard. On perd notre travail parce qu'on a mal travaillé. Parce que des fois, c'est trop tard pour dire on va recommencer de bien travailler. Le patron nous a virés. Quand on divorce, c'est souvent trop tard pour dire on va recommencer notre vie de couple parce que... On recommence à zéro, ou bien qu'on a raté son examen, pareil, c'est trop tard. Et pourtant, même dans tous ces trop tards-là, on peut recommencer un examen, on peut se remarier, on peut retrouver un travail, C'est quand même des trois dards qui sont récupérables. Mais il y a un moment où vraiment il y a un trois dards qui n'est pas récupérable, c'est celui de la mort. Le jour où on meurt, c'est vraiment trop tard. Alors on a inventé une chose, c'est le purgatoire. Parce que comme on détestait trop tard, on a dit bon, on va peut-être trouver une solution, on a mis le purgatoire pour ça. Dans ce texte, c'est terrible, hein. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Il y a un jour qui vient, ou même en frappant ou en criant, on n'ouvre plus. C'est un peu comme dans l'Arche de Noé. Un jour, c'est Dieu lui-même qui ferme la porte. Alors on dit, c'est pas juste, c'est trop tard. Ça fait 2000 ans que la porte est ouverte depuis le sacrifice de Jésus. 2000 ans qui dit, voilà, vous avez reçu votre carton d'invitation, venez, rentrez. Beaucoup sont rentrés, il y en a qui ne sont pas rentrés. Alors je crois qu'il ne faut pas trop se choquer par ce trop tard. Moi je suis plutôt choqué en voyant qu'il y a un Dieu qui a tout fait pour nous inviter, qui a envoyé son Fils en personne, jusqu'à ce que ce Fils soit tué. Il a permis ça. Pour nous inviter, pour nous permettre d'avoir ce petit carton, et qui depuis nous dit, mais venez, entrez, préparez-vous pour la fête, dès maintenant, commencez, faites vos provisions d'huile. Depuis 2000 ans, on nous dit ça, et on ose dire, c'est choquant le jour où il fermera définitivement la porte. Voilà, drôle de mariage, je vous l'avoue. Un drôle de mariage où on ne parle pas de la mariée. C'est assez étonnant. On parle d'invités qui ne sont même pas prêts. On parle d'invités qui veulent emprunter pour des choses essentielles dans leur fonction qu'ils doivent assumer pendant ce mariage. Et un mariage, on nous dit que c'est trop tard pour arriver à un moment donné au banquet. Et qu'il y aura un trop tard. Un drôle de mariage où tout le monde est invité. Et où on se prépare dès aujourd'hui. Parce qu'un jour, un Christ fera entendre aller à sa rencontre. Et ce jour-là, ce sera trop tard. Alors mon souhait, vraiment mon désir pour moi, pour vous, c'est que nous nous assurions que nous ne manquons pas la fête. Nous vérifions nos réserves d'huile et que maintenant, il n'est encore pas trop tard pour commencer à faire ses provisions. Et personne ne peut le faire à ma place. Je voudrais laisser cette parole de 2 Pierre 3,14. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Amen. Allez prier. Je te remercie, Seigneur, parce que on a encore un peu de temps devant nous. Je ne sais pas combien tu nous en laisses. Je sais qu'il y a encore un peu de temps maintenant là. Et je te prie que tu m'aides, tu nous aides à vraiment bien l'utiliser. Aide-nous à faire ces provisions d'huile. Aide-nous à commencer d'éclairer là où nous en sommes. À faire de la lumière. À montrer ta lumière. Et à avoir une vie qui soit en cohérence avec ce que nous professons être. Nous les chrétiens. Père, nous avons besoin de ton aide pour faire ses provisions et pour éclairer. Merci d'être avec nous.